Les podcasts de Radio Vatican.
Les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce. C'est le thème du 16e forum annuel AGOA qui s'est ouvert ce mercredi 9 août 2017 à Lomé, au Togo. L'AGOA est une loi américaine mise en place en l'an 2000 pour faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les États-Unis et 38 pays d'Afrique. Concrètement, les États-Unis acceptent de réduire les taxes à l'importation de près de 6000 produits africains tant que les pays d'origine remplissent certaines conditions, des conditions liées aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance et à la protection des travailleurs. L'élection à la Maison-Blanche de Donald Trump, adversaire déclaré des accords commerciaux multilatéraux, a laissé craindre une remise en cause de l'AGOA. 6 mois après son entrée en fonction, quelle relation le président américain entretient-il avec l'Afrique ? Comment a évolué la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de ce continent depuis son élection ? Les réponses de Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
On peut dire effectivement que l'Afrique n'est pas une priorité pour Donald Trump. Elle ne l'a pas été lors de sa campagne électorale, elle ne l'est pas depuis. En réalité, le prisme qui domine la perception du monde de la part de Donald Trump, autant qu'on arrive à avoir une ligne directrice, parce qu'elles sont souvent très changeantes, c'est la question du terrorisme, la question de la sécurité. Et puis ensuite, voir où il y a des opportunités en termes de marché. Donc pour Donald Trump, l'Afrique est peu présente dans sa représentation. Elle est présente négativement par les risques migratoires, elle est présente négativement par les problèmes d'insécurité, notamment dans certains États qui sont traités comme des États terroristes, comme le Soudan. Par contre, il n'y a pas de priorité sur le plan économique vis-à-vis d'un marché qui n'est un marché, selon Trump, que potentiel en termes de population, mais qui ne l'est pas par rapport à une demande solvable.
Comment qualifier cette politique de Donald Trump vis-à-vis de l'Afrique par rapport à ses prédécesseurs ?
Moi, je dirais qu'il y a rupture parce qu'il y a toujours eu une politique africaine forte de la part des États-Unis, même s'ils considéraient que ce n'était pas le continent le plus prioritaire. Mais il y a toujours une politique. En gros, elle avait 3 volets, la lutte contre le terrorisme et la sécurité, la question de la sécurité pétrolière et énergétique, et troisièmement, le développement de la démocratie et du marché. Et ça, on le trouvait aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. Or, ces 3 priorités n'apparaissent pas clairement. La question de la démocratie n'est plus posée aujourd'hui. La question de l'extension des marchés n'est pas non plus soulevée. La question de la sécurité énergétique est moins stratégique puisqu'il y a les gaz de schiste et qu'il y a la politique contre l'environnement pour relancer le charbon et pour relancer les hydrocarbures aux États-Unis. Et donc, on peut dire que des 3 volets qui déterminaient la politique américaine, il ne reste que le volet sécuritaire.
Le forum qui se tient actuellement concerne le commerce. Peut-être qu'on peut déjà partir de ce point-là. Donald Trump avait affiché sa volonté de renégocier les traités commerciaux, on s'en souvient. Qu'en est-il de l'AGOA ?
Il faut voir que l'AGOA n'est pas stratégique pour les États-Unis. Il y a simplement 1% des importations américaines qui proviennent des 38 pays qui sont concernés par l'AGOA. Alors, évidemment, dans les principes de Donald Trump, on est plutôt dans des visions protectionnistes du monde. On est dans des visions plutôt bilatérales, donc de négociations avec des États et non pas avec des ensembles régionaux. Il n'y a donc pas, je dirais, de politique visant à sauvegarder ou à sauver l'AGOA particulièrement. Ceci étant, comme c'est relativement marginal pour les États-Unis, on peut dire qu'il y a peut-être une volonté de ne pas casser non plus un traité et un accord commercial qui a été mis en place par Clinton, mais qui a été largement soutenu par les républicains. Ça serait un casus belli avec les républicains que de remettre en question l'AGOA. Ce n'est pas absolument stratégique, donc je pense qu'il y aura quelques mesures, disons, symboliques qui seront prises au nom non plus de la conditionnalité de la démocratie, puisque là-dessus, Donald Trump se sépare de ses prédécesseurs, mais au nom de l'extension du marché et de la mise en place d'une économie de marché prospère.
Vous l'avez évoqué, les échanges commerciaux là dont on parle sont notamment été au moins très importants concernant le pétrole. Dans quelle mesure la politique intérieure d'indépendance énergétique de Donald Trump, vous avez évoqué les gaz de schiste, peut-elle impacter les exportations d'hydrocarbures africaines et finalement aussi les économies de certains pays d'Afrique ?
Il est certain qu'il y a un changement de la politique et une accélération de la politique de Trump. On le voit par la dénonciation de l'accord de la COP21 sur le plan énergétique, c'est évident. Mais ce que l'on pouvait déjà noter à l'époque de Barack Obama, c'est que l'exploitation des gaz de schiste avait fortement réduit l'impérieuse nécessité de diversifier ses sources en hydrocarbures. Et on prévoyait, il y a encore une dizaine d'années, que l'Afrique produirait à peu près 25% des besoins énergétiques d'hydrocarbures de l'Afrique. Or, c'est plus du tout le cas, d'une part parce qu'il y a les gaz de schiste, ça, on l'avait à l'époque d'Obama, mais aussi parce qu'il y a une politique pour retrouver les énergies carbonées, toutes les énergies qui sont donc créatrices de gaz à effet de serre, à commencer par le charbon et les hydrocarbures sur le sol américain. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, l'Afrique n'est beaucoup moins stratégique qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années.
Et justement, dans ce contexte de moindre intérêt, voire de désintérêt pour l'Afrique, comment réagissent les pays africains ? Ils se tournent vers d'autres parties du monde ?
Alors, de la part des chefs d'État africains, certains ont considéré que c'était une très bonne chose que quelqu'un qui n'ait pas de conditionnalité de démocratie, de droits de l'homme, arrive au pouvoir aux États-Unis. Donc, il a reçu globalement l'appui d'un certain nombre de, si ce n'est de dictatures, ce qu'on appelle les démocratures ou des régimes très autoritaires. Du côté des populations et des autres chefs d'État, je crois qu'il y a le fait qu'on prend acte que les États-Unis sont en train de passer la main à la Chine, hein, et donc effectivement, ils sont beaucoup plus dans une logique de diversification des partenaires, en prenant acte que les États-Unis, sont importants évidemment dans le domaine de la sécurité parce que ils ont la technologie, ils ont la possibilité d'observation aérienne, de renseignement, de transport des troupes, ils ont toute la logistique. Ils ont également des présences par leurs forces spéciales, mais en fait, ils ne sont pas très présents en termes d'investissement, ils ne sont pas très présents en termes de relations commerciales. Donc, il faut quand même rappeler que les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique, c'est à peu près un quart des relations commerciales entre la Chine et l'Afrique.
Je rebondis sur le fait que vous avez un peu évoqué la question sécuritaire. On sait que Donald Trump, d'un côté, veut renforcer la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi du terrorisme en Afrique. De l'autre côté, il y a cette volonté aussi de réduire le budget militaire, les interventions militaires dans le monde. Comment est-ce qu'il arrive à concilier cela sur le terrain africain ?
C'est effectivement une des contradictions de la politique américaine en termes de défense. Alors comment est-ce que de fait ça apparaît ? Ils ne se sont pas désengagés réellement de l'appui logistique, de la présence de forces spéciales et ils interviennent dans beaucoup de régions en relation avec les puissances occidentales. Je pense à la France dans les pays du Sahel. Et puis ils ont quand même des bases militaires qui continuent, notamment à Djibouti. Ils en ont à Diego Garcia. Par contre, les États-Unis ne veulent pas être présents dans des luttes d'insécurité interne. Par exemple, Donald Trump a dit que la LRA, qui agit de manière extrêmement négative en Ouganda et jusqu'en Centrafrique, il a dit que ce n'était pas le problème des États-Unis. Donc les États-Unis ne se désengagent pas militairement, mais ils cherchent essentiellement à traiter la question de la sécurité, non pas par rapport évidemment à la raison de la sécurité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le terreau du terrorisme, c'est évidemment pas uniquement une réponse en termes militaires qui permet de lutter contre le terrorisme, ils s'intéressent essentiellement à l'impact que peut avoir la sécurité de l'Afrique vis-à-vis de leur propre continent.
Concernant ce terreau justement du terrorisme, il y a cette question de l'aide au développement, la question de, en aidant ces pays à se développer, peut-être qu'il y aura moins d'islamisme, moins de terrorisme. Sur ce volet-là, est-ce qu'il y a vraiment eu des coupes concernant l'aide au développement ?
Alors, écoutez, je n'ai pas là encore les chiffres. Il faut savoir qu'il n'y a pas une politique africaine des États-Unis claire. Il n'y a pas un monsieur Afrique qui a été nommé, comme il y en a toujours eu. Mais ça, on est dans le problème à la fois de l'incertitude de la politique de Trump, du fait qu'il n'a pas mis en place des administrations et des décideurs, et donc il est très difficile de savoir ce que sera la politique de l'aide. Ce que l'on peut dire, c'est que tout ce qui est aide à des ONG pour les questions de défense des droits de l'homme, de contrôle de la fécondité, de droits des femmes, etc., là est fortement réduite. Donc l'aide passant par des ONG américaines actuellement est fortement réduite. Par contre, l'aide publique au développement selon les critères de l'OCDE et du CAD, pour l'instant, il n'y a pas de réduction connue. Mais peut-être qu'il y a des arbitrages budgétaires qui iront dans le sens de la baisse de l'aide américaine. En tout cas, c'est ce que Trump avait dit. Mais le gros problème de la politique de Trump, c'est qu'elle est totalement aléatoire, elle est incertaine. Les intérêts ne sont pas les mêmes du côté du Pentagone, du côté du secrétaire d'État aux affaires étrangères, ne sont pas les mêmes dans tous les domaines. Donc il est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir une vision claire de ce qu'est la politique africaine de Trump.
Un dernier point concernant cette politique. Que peut-on dire concernant les droits de l'homme? On sait que Barack Obama, par exemple, avait dans son discours d'Accra en 2009 estimé que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais de fortes institutions. Donald Trump est-il toujours sur la même ligne?
Non. Là, sur le plan, en tout cas, je dirais, des principes et philosophiques, il y a un écart considérable. La position de Trump est dire que la question des droits de l'homme n'est pas une question importante et qu'il faut laisser chaque État choisir son propre régime. Il faut savoir que l'AGOA, pour revenir à l'AGOA, avait comme conditionnalité le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection des travailleurs et que certains pays pour lesquels l'AGOA a été stratégique, je pense à un moment Madagascar et sa zone franche dans le textile, ont été en crise parce qu'ils ne remplissaient pas ces conditionnalités. Là, dans le cas présent de l'AGOA, ça sera un rapport d'homme d'affaires, mais la question des droits de l'homme ne sera pas abordée, sauf si le négociateur américain a une position qui s'éloigne de la position de principe de Donald Trump.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.